Chapitre 3. Bien que Zit, encore bercé par les chaos de la roulotte paternelle, n'éprouvât nullement le besoin d'avoir un salon, Madame Crozat avait tenu à lui en disposer un. « Vous comprenez, ma chère, qu'après votre succès, il vous faut une pièce pour recevoir les directeurs. » Et elle avait donné des ordres au personnel de l'hôtel pour qu'on prît les cartes de toutes les personnes qui viendraient faire visite à Mademoiselle Duchâtelier. Un peu de curiosité n'est pas défendue. Par ce moyen, elle serait avertie aussitôt qu'un directeur se présenterait. Mais le premier nom qu'on lui donna ne fut pas celui du directeur du Vaudeville ou de la Porte Saint-Martin, ce fut celui de M. Gaston Chamontin. « Comment, il vient la voir ? Tiens, tiens !» Zit était dans sa chambre, occupée à copier les lettres de Crozat, quand le domestique lui remit la carte de Gaston. Elle eut un moment de surprise, n'ayant pas du tout prévu en lui écrivant qu'il viendrait chez elle. Mais puisqu'il était là, elle répondit qu'il pouvait monter et, quittant son travail, elle passa dans son salon. C'était la première fois qu'elle recevait une visite. Il allait donc falloir pour de bon jouer à la dame. Que dire ? Elle n'eut pas le temps de se préparer comme elle aurait voulu. Dans le corridor, résonnaient les pas de Gaston. Aussitôt qu'il parut, elle ne se sentit plus embarrassée et elle alla à lui la main tendue. « Comme je suis heureuse de pouvoir vous renouveler mes remerciements, » dit-elle. Alors, ils restèrent en face l'un de l'autre, sans parler. C'était à Gaston de répondre, et comme il ne disait rien, Zit se sentait reprise par l'embarras qu'elle avait secoué dans un mouvement d'élan. Elle lui montra un fauteuil et s'assit elle-même. Un guéridon couvert de journaux, ceux qui célébraient sa gloire, étaient entre eux. « J'avais espéré, dit-il enfin, que vous ne me trouveriez pas indiscret si je vous apportais mes compliments. Le premier, vous avez pressenti que je pouvais avoir quelque talent. Soyez assuré que je m'en souviendrai toute ma vie. » Elle posa sur lui ses grands yeux avec un regard ému qui affirmait la sincérité de ses paroles. « N'aviez-vous donc pas le désir et l'espoir de venir à Paris un jour ? » demanda-t-il. C'était mon rêve, celui de mes nuits comme de mes jours, et auquel je ramenais tout. C'était cette espérance, cette ambition qui, depuis plusieurs années, me faisait travailler avec un vieux comédien de notre théâtre que vous avez vu, La Chapelle. Le Jérôme d'il y a 16 ans, le Tyrell des enfants d'Édouard. Justement, La Chapelle, qui est un excellent maître, connaissant bien le théâtre, désirait une année encore d'études pour moi. Et puis, il fallait attendre une occasion, obtenir qu'un directeur voulût bien m'entendre, tout un monde de difficultés et, pour nous, d'impossibilités qui me faisaient douter que ce rêve pût se réaliser jamais. Cela vous dit quelle est ma reconnaissance pour le magicien qui a accompli ce miracle. C'est Faré, ce magicien. Si je dois beaucoup à M. Faré, ne dois-je rien à celui qui a amené M. Faré à Noisy ? Rien serait peut-être beaucoup dire. Cependant, il ne faut pas exagérer cette reconnaissance. Il hésita un moment, puis vivement, il continua en homme qui ne veut pas se laisser arrêter. En disant à Faré que j'avais découvert sur un petit théâtre de village une comédienne jeune, jolie, pleine d'intelligence et de talent, dont la place était à Paris sur un grand théâtre, la vérité, et que je n'ai pas seulement pensé à vous, j'ai pensé aussi à moi, au plaisir de vous voir, de vous avoir à Paris. » Il s'établit un silence. Bien que Zit eût baissé les yeux, elle sentait ceux de Gaston posés sur elle, et son trouble n'en était que plus vif. Cependant, elle comprit qu'elle ne devait pas quitter le terrain sur lequel elle s'était placée. « Quoi qu'il en soit, répondit-elle, je ne peux pas ne pas voir en vous celui qui, de la villageoise, a fait une parisienne. » Ce n'était pas le suivre, tout au contraire, c'était rompre le courant pour revenir au point de départ. Cependant, il ne s'en montra pas contrarié. « Et vous n'êtes pas retourné à Noisy depuis que vous l'avez quitté ? » demanda-t-il. « Les répétitions m'en ont empêché et depuis la première représentation, je n'ai guère eu plus de liberté, mais j'espère aller y passer 2 heures demain ou après-demain. Voulez-vous que nous y allions ensemble ?» Elle le regarda surprise. En ce moment, je traverse Noisy une fois ou deux par semaine pour aller surveiller des travaux en exécution dans notre parc. Justement, demain est un de mes jours. Je vous offre une place dans mon phaéton qui, plus rapide que le chemin de fer et l'omnibus, vous donnera plus de temps à passer auprès des vôtres. Je me mets à votre disposition pour partir et revenir à l'heure que vous voudrez. » Comme elle ne trouvait rien à répondre dans la confusion où l'a jeté cette proposition, il continua. « Évidemment, je n'adresserai pas cette proposition à une jeune fille de notre monde bourgeois, élevée dans un courant à la mode. Cependant, je vous donne ma parole que je n'hésiterai pas à l'adresser à une Anglaise ou une Américaine qui, elle, de son côté, n'hésiterait pas à l'accepter au cas où elle lui serait agréable. » « Vous n'êtes ni une Anglaise ni une Américaine, cela est vrai, et vous n'êtes pas non plus une élève d'un couvent sévère. Mais par votre position, vous jouissez de certaines libertés et pouvez vous placer au-dessus des préjugés vulgaires. Une élève des couvents ne demeurerait pas toute seule dans Paris. Si vous êtes affranchie d'un de ces préjugés, ne pouvez-vous pas l'être pour d'autres ?» Elle eut peur d'être ridicule en refusant et de montrer une bégueulerie déplacée chez une femme de théâtre. « J'accepte, dit-elle, pardonnez cette hésitation à une villageoise. À 10h30, je serai à votre porte. » Le lendemain, un peu avant que la demie de 10h sonna, Zit, qui avait laissé une de ses fenêtres ouvertes, entendit une voiture légère arriver grand train et s'arrêter brusquement devant l'hôtel. Elle courut au balcon et, se penchant, elle reconnut les chevaux à la robe aux anclères qu'elle avait vus si souvent passer à Noisy. Vivement, elle descendit. Quelle exactitude ! C'est admirable ! N'en soyez pas surpris, il n'y a pas de gens plus exacts que les comédiens. Il l'aida à monter et, quand il eut pris place à côté d'elle, le valet de pied les enveloppa dans une belle couverture de fourrure. « Vous êtes bien ? » demanda-t-il. Du bout de la mèche de son fouet, il toucha ses chevaux qui partirent. Par le boulevard Saint-Germain, ils gagnèrent l'avenue Daumesnil et ne tardèrent pas à entrer dans le bois de Vincennes, où le léger brouillard qui les avait jusque-là enveloppés dans les rues de Paris et sur la Seine se dissipa en laissant voir le ciel d'un bleu pâle. « N'êtes-vous pas heureuse de revoir les bois ? » demanda-t-il en la regardant. « Oui, très heureuse. » « Vous avez déjà repris vos couleurs, celles que je vous ai vues quand je vous ai salué un jour que vous étiez assise sous la véranda de votre voiture et que vous pensiez à Paris. » En effet, son visage fouetté par l'air vif s'était coloré et il y avait une animation, une fraîcheur que ne donne pas la tiédeur des pièces closes. « C'est que j'ai toujours vécu en plein air, » dit-elle. « Aussi, ne devriez-vous pas rester enfermée. » « Où voulez-vous que j'aille ? Je regarde les arbres du Luxembourg et j'écoute les oiseaux. » « Regardez, écoutez, ce n'est pas assez. Je ne connais personne à Paris avec qui je puisse sortir. Vous me connaissez. Mais je ne peux pas sortir avec vous. Pourquoi ne ferions-nous pas une promenade en voiture de temps en temps ? Les bois ne sont pas loin du quartier du Luxembourg. Vous pourriez marcher, respirer. » Elle détourna la conversation, ne voulant pas plus refuser qu'accepter. « Plus d'une fois, dit-elle, j'ai admiré l'allure de vos chevaux quand vous passiez. Je ne me doutais guère qu'un jour ils m'emporteraient de ce train. » En effet, dans les allées désertes du bois, ils détalaient d'un grand trot allongé. « Vous aimeriez avoir des chevaux ? » demanda-t-il en se tournant vers elle. « Je me faisais fête d'aller vite un jour, et jamais cela ne m'était arrivé, car de nos trois chevaux, l'un est boiteux, l'autre a plus de 20 ans, et Bélisère est aveugle. Tout cela est très bon pour traîner des roulottes, mais pas pour aller vite. Il n'est plus question de roulottes pour vous, maintenant. Sans doute, mais il ne peut pas être question non plus de chevaux pour moi. » La tentative qu'il avait faite sous l'influence de Bachelet était reçue de telle sorte qu'il n'osa pas insister. Évidemment, elle avait compris, et c'était parce qu'elle avait compris qu'elle avait répondu de cette façon. Ils arrivaient à Nogent, d'ailleurs, et la traversée du village dans la rue étroite des Raboteuses rendait la conversation difficile. Elle ne reprit que lorsqu'ils furent sur la route de Brie, mais il ne fut plus question que de choses indifférentes, de théâtre, de répétition. Les chevaux ne ralentirent pas leur allure pour monter la côte de Noisy, et aux premières maisons, on se mit comme toujours sur les portes pour voir passer le fils Chamontin, dont on avait reconnu le train. « Mais Zit est avec le fils Chamontin ! C'est idiot possible !» C'était si bien possible qu'à l'avenue, le phaéton s'arrêta et Gaston sauta à bas pour aider Zit à descendre, tandis que le valet de pied se tenait à la tête des chevaux. « À quelle heure voulez-vous repartir ?»«
Je n'ai besoin d'être à Paris qu'à 6 heures. »«
Alors nous partirons à 4h30, de peur d'accro en route. » Marietta, qui était chez son ami le petit bossu, plongée dans un journal, avait levé la tête au passage de la voiture et en reconnaissant sa sœur, elle était accourue pour la recevoir.
« Monsieur Chamontin, dit-elle en embrassant Zit, à la bonne heure, j'aime mieux celui-là que Joseph. »
« Tu vois des amoureux partout, toi. »«
Pas autour de moi, toujours, mais je n'ai pas des robes comme toi. Et tu es assez belle. Papa nous l'avait bien dit. »
Elles étaient arrivées à l'escalier de la roulotte.
« Tu ne montes pas, dit Zit à sa sœur qui s'éloignait.
« J'étais sortie pour aller chercher une assiette assortie chez le charcutier. En passant, je suis entrée chez le petit bossu et j'ai oublié l'assiette. Je cours la chercher. »
Au bruit des voix, Madame Duchâtelier avait paru sur la véranda.
« Comment, c'est toi ? » s'écria-t-elle en voyant Zit. À ce moment, Duchâtelier, La Chapelle, Joseph, Théodore et Stanislas sortaient du théâtre.
« Mais comment donc arrives-tu ? » demanda Duchâtelier après avoir embrassé sa fille.
« Ce n'est pas l'heure de l'omnibus, dit Joseph.
« Je suis venu avec M. Gaston Chamontin. » répondit Zit, pressé par ses questions.
Monsieur Chamontin, fils, dit Duchâtelier.
Il venait à son château, il m'a offert une place dans son phaéton.
Phaéton, Odéon, plus que ça de ton. Nom de nom, qu'en dira-t-on ? Fit Stanislas en riant.
On n'en dit rien, mais Joseph, qui avait pâli, se détourna pour cacher son trouble.
Zit voulut faire une diversion.
« Et déjeuner, dit-elle, j'ai une faim de loup. »
Ôtant son chapeau, son manteau, ses gants, elle manœuvra la corde au moyen de laquelle on abaissait la table et prit les assiettes, les couteaux, les fourchettes dans le coffre, pendant que, sur le poêle, Madame Duchâtelier dégraissait un haricot de mouton.
« J'ai de la chance, dit Zit en respirant l'odeur des navets, d'être tombée sur le jour du haricot de mouton.
Tu n'en manges point à ton hôtel ?»
« Je mange du navarin, ce qui est beaucoup plus distingué, mais aussi beaucoup moins bon. »
Marietta étant arrivée avec son assiette assortie, on se mit à table, chacun occupant sa place ordinaire, c'est-à-dire que Zit, à côté de sa mère, faisait face à Joseph. Elle n'était pas la seule à avoir faim, tout le monde s'était jeté sur la charcuterie, Joseph excepté, qui, ayant pris un tout petit morceau de jambon, le tournait et le retournait dans sa bouche sans parvenir à l'avaler. Zit, qui le regardait de temps en temps sans jamais rencontrer ses yeux, qu'il tenait collés sur son assiette, eût voulu lui dire quelque chose, mais elle ne trouvait rien, distraite qu'elle était par les questions qu'on lui adressait de tous les côtés. La charcuterie dévorée, on passa aux haricots de mouton que Madame Duchâtelier servit.
« Veux-tu encore une pomme de terre ? » demanda-t-elle en servant Zit.
« Encore une pomme de terre, encore un navet, encore de la viande. »
« À la bonne heure, » dit La Chapelle, qui, pour l'admirer, en oubliait de manger. « Tu as gardé tes goûts d'autrefois. »
Elle lança un regard à Joseph, si vif, si droit, qu'elle lui releva de force les paupières abaissées.
« Oh, ça c'est bien vrai, dit-elle, ce que j'aimais autrefois, je l'aime toujours, et plus encore qu'autrefois. Ce n'est pas seulement pour le haricot de mouton que je dis ça, c'est pour tout, les choses et les personnes. »
Le visage convulsé de Joseph se détendit.
« Vous ne m'avez pas cru capable de vous oublier, j'espère, continua-t-elle.
« Bien sûr que non, ma fille, répondit La Chapelle. »
Ici, je rêvais de Paris. À Paris, c'est des roulottes que je rêve, et c'est ici que je reviens par la pensée et par les souvenirs. Ce fut de ces souvenirs qu'on s'entretint jusqu'à la fin du déjeuner. Cependant, Zit crut remarquer que, dans la conversation, manquait la liberté et la franchise d'autrefois. Il semblait qu'il y avait certains sujets que chacun cherchait à éviter. Lorsqu'elle resta seule avec son père et sa mère, elle eut l'explication de cette bizarrerie d'attitude. « Tu sais que Joseph doit nous quitter, » dit du Châtelier. « Joseph ? Il est question d'un engagement aux folies pour doubler Gazéole. Et comme Théodore va aussi abandonner le théâtre pour épouser sa veuve, nous voilà bien embarrassés, et d'autant plus que ta remplaçante ne te remplace pas du tout, elle est toujours à Paris ou ailleurs. Tu devrais bien dire un mot à Joseph. Que veux-tu que je lui dise ? Demande-lui de ne pas nous laisser dans l'embarras. Qu'est-ce que nous allons devenir ? Sans toi, sans Théodore, sans Joseph, c'est trop à la fois. » C'était là une mission difficile pour Zit et encore plus délicate. De quel droit demander à Joseph de sacrifier Paris ? Cependant, elle ne voulut pas refuser son père et, dans la journée, elle s'arrangea pour être seule un moment avec Joseph qui, au lieu de la rechercher comme toujours, paraissait l'éviter de parti pris. Comme il prenait l'avenue pour s'en aller dans la campagne, elle l'appela et le rejoignit. « Il faut que je coure après toi, » dit-elle. « Tu n'as donc rien à me dire ? Que veux-tu que je te dise ? Si je t'ai fait de la peine, pourquoi ne t'en plains-tu pas franchement ? De quel droit me plaindrais-je et pourquoi parlerais-je de choses qui ne peuvent être que désagréables pour toi et cruelles pour moi ? Tu étais plus franc autrefois. Autrefois. » Ils étaient arrivés dans la plaine qui s'étalait devant eux. « Autrefois, dit-il avec un accent concentré, j'avais des droits sur toi, où je croyais en avoir, ce que donne l'égalité, nous étions deux camarades, je t'aimais et je croyais, j'espérais que tu serais ma femme un jour, quand je t'aurais gagné par mon amour. De là la franchise de mes plaintes, lorsque je croyais avoir à me plaindre de toi, et je t'ai fait assez de scènes, je t'ai imposé assez de tourments de jalousie imbécile, pour montrer combien je croyais à la justice de mon droit. Mais c'était autrefois. Aujourd'hui, nous ne sommes plus camarades. « Peux-tu dire cela ? » s'écria-t-elle en lui saisissant la main vivement. « Nous ne sommes plus, au moins, les camarades que nous étions, deux pauvres comédiens de la même troupe. Les espérances dont je vivais ont été tuées par ton succès et je n'ai plus le droit de me plaindre quand tu me peines. Le malheur est que tu m'aies aimé d'une bonne amitié quand moi je t'aimais d'un amour de fou. » Cet amour n'est pas mort et il ne mourra jamais, mais le fou a recouvré la raison et il comprend aujourd'hui ce qu'il ne comprenait pas autrefois, c'est-à-dire qu'un pauvre diable comme moi ne peut pas être le mari d'une femme comme toi. Je n'ai donc pas à me plaindre et tu vois que je ne me plains pas. Ce serait le plus sûr moyen de me faire prendre en haine et je veux que tu me gardes ton affection. Et je te jure que je te la garderai toujours. Ce que tu as été depuis que je te connais, mon meilleur ami, toujours tu le seras. Je n'ai pas douté de ton cœur et c'est ce qui m'a fait accepter des propositions qui me sont venues d'un ami pour aller à Paris doubler Gazéole qui fait un peu trop de frasques à son directeur. Je ne peux plus vivre ici où je serai mort de chagrin. À Paris, je te verrai de temps en temps. On m'a parlé de cela. Et ton père est fâché, n'est-ce pas ? « Mais que veux-tu ? C'était pour toi que je m'étais engagé dans sa troupe. Tu pars, je te suis. » Il a bien compris que ton avenir n'était pas à Noisy, ni à Lagny, ni à Coulommiers. Il doit le comprendre pour moi aussi. Ils étaient arrivés dans la plaine, à un endroit où il n'y avait plus ni maison ni enclos et où la campagne s'étalait plate devant eux, balayée par le vent frais qui, en tout temps, souffle sur ses plateaux. Elle lui passa la main sous le bras et doucement s'appuya sur lui. « Je te jure, mon bon Joseph, que j'éprouve un chagrin bien vif de te voir si désespéré sous cette apparence résignée. Mais que veux-tu ? Tu m'aimes sans que j'aie rien fait pour mériter ton amour, et moi, je ne t'aime point, au moins dans le sens qu'on donne à ce mot, quand tu as tout fait pour gagner le mien. De cœur meilleur que le tien, plus tendre, plus généreux, de nature plus droite que la tienne, je n'en connais point. La femme que tu épouseras sera la plus heureuse des femmes, aimée, choyée, respectée, Et pourtant, malgré tout ce que ma raison me dit, je ne peux pas me décider à être cette femme, simplement parce que ce n'est pas d'amour que je t'aime, et que, si je me marie jamais, ce qui n'est guère probable, ce ne sera qu'avec un homme que j'aimerai passionnément, beau ou laid, riche ou pauvre, bon ou méchant. Tu vois que chacun a sa folie. Mais que je me marie ou ne me marie pas, mes sentiments seront toujours pour toi ce qu'ils sont à cette heure, ceux d'une ardente affection. « Ah, zut ! » s'écria-t-il, « tu ne me dis pas une parole qui ne me soit une douleur et un bonheur à la fois, qui ne m'étouffe et ne m'exalte. » L'émotion lui coupa la parole et ils marchèrent assez longtemps côte à côte sans rien dire. Comme elle ralentissait le pas pour s'arrêter et revenir en arrière, il comprit son intention. « Encore un peu, dit-il, donne-moi de cette journée, la meilleure de ma vie en réalité, tout ce que tu peux m'en donner. Puisque tu viens à Paris, nous ne serons pas séparés, nous nous verrons souvent. Le monde où tu vas vivre sera si peu le mien. » Bien qu'elle eût voulu faire ce qu'il demandait, il fallut, quand ils approchèrent de la haute maison, revenir au village, Joseph ralentissant toujours le pas pour la garder plus longtemps. « Eh bien, demanda Duchâtelier à Zite en la prenant à part. Il ne peut pas rester, ce serait manquer son engagement. » Depuis que Duchâtelier parcourait les environs de Paris avec ses roulottes, Madame Duchâtelier ne les avait jamais quittés. La messe, le dimanche, était sa seule sortie. Elle allait de sa roulotte au théâtre, du théâtre à sa roulotte, et ne s'aventurait jamais dans les villages où ils jouaient, et ne les connaissait que pour les traverser à leur arrivée ou au départ. Zite, cependant, s'était promis de la décider à venir la voir dans Ella avec Marietta, qui avait pleuré pendant 3 jours, de rester à Noisy le soir de la première représentation. Au premier mot, Madame Duchâtelier poussa des cris d'émoi. « À Paris, moi, y penses-tu, ma pauvre enfant? Tu n'as donc pas envie de me voir dans mon rôle? À Paris, sans les roulottes ?» Cependant, pressée par Zite et par Marietta, elle céda à la fin et promit d'aller à Paris quand les jours seraient plus longs. À l'heure dite, Gaston s'arrêta devant l'avenue et Duchâtelier s'empressa noblement d'aller le remercier du service qu'il avait rendu à sa fille et dont il lui était personnellement reconnaissant. Quand Zite, après avoir embrassé sa mère et sa sœur, chercha Joseph pour lui dire adieu, elle ne le trouva point. Il s'était sauvé et caché dans le théâtre. Zite n'était pas sans inquiétude pour le retour. Le soir tombait et elle craignait que l'obscurité ne fût une occasion pour Gaston de revenir à une offre du genre de celle qu'il lui avait adressée, mais cette crainte ne se réalisa point. Il lui demanda à quel âge et comment elle avait débuté, et elle fit son récit si longuement, heureuse de s'étendre sur un sujet rassurant, qu'ils arrivèrent devant l'hôtel des Médicis avant qu'elle l'eût achevé. Elle n'eut que le temps de lui adresser quelques mots de remerciement pour l'agréable promenade qu'il lui avait fait faire. « J'espère bien que nous ne nous en tiendrons pas à celle-là, » dit-il. Lorsqu'elle entra en scène, elle vit inoccupée la place d'où Gaston assistait chaque soir aux représentations d'Ella, et cela était si naturel qu'il ne lui vint pas à la pensée de s'en étonner. Après avoir passé la journée ensemble, ce serait un fanatisme vraiment caractéristique de venir encore le soir au théâtre. Cependant, au troisième acte, elle le trouva installé à cette place.